Chapitre 2. En attendant les simplifications merveilleuses, mais ultérieures, qu'amènera un jour l'union de l'Europe et la fédération démocratique du continent, quelle sera en France la forme de l'édifice social dont le penseur entrevoit dès à présent, à travers les ténèbres des dictatures, les vagues et lumineux linéaments. Cette forme, la voici. La commune souveraine, régie par un maire élu. Le suffrage universel partout, subordonné, seulement en ce qui touche les actes généraux à l'unité nationale. Voilà pour l'administration. Les syndicats et les prud'hommes réglant les différends privés des associations et des industries. Le juré, magistrat du fait, éclairant le juge, magistrat du droit. Le juge, élu. Voilà pour la justice. Le prêtre hors de tout, excepté de l'Église, vivant l'œil fixé sur son livre et sur le ciel, étranger au budget, ignoré de l'État, connu seulement de ses croyants, n'ayant plus l'autorité, mais ayant la liberté. Voilà pour la religion. La guerre bornée à la défense du territoire, la nation garde nationale, divisée en trois bancs, et pouvant se lever comme un seul homme. Voilà pour la puissance. La loi, toujours. Le droit, toujours. Le vote, toujours. Le sabre, nulle part. Or, à cet avenir, à cette magnifique réalisation de l'idéal démocratique, quels étaient les obstacles? Il y avait quatre obstacles matériels. Les voici. L'armée permanente. L'administration centralisée, le clergé fonctionnaire, la magistrature inamovible. Chapitre 3. Ce que sont, ce qu'étaient ces quatre obstacles, même sous la République de février, même sous la Constitution de 1848, le mal qu'ils produisaient, le bien qu'ils empêchaient, quel passé ils éternisaient, quel excellent ordre social ils ajournaient. Le publiciste l'entrevoyait, le philosophe le savait, la nation l'ignorait. Ces quatre institutions énormes, antiques, solides, arc-boutées les unes sur les autres, mêlées à leur base et à leur sommet, croisant comme une futaie de grands vieux arbres leurs racines sous nos pieds et leurs branches sur nos têtes, étouffaient et écrasaient partout les germes épars de la France nouvelle. Là où il y aurait eu la vie, le mouvement, l'association, la liberté locale, la spontanéité communale, il y avait le despotisme administratif. Là où il y aurait eu la vigilance intelligente, aux besoins armés, du patriote et du citoyen, il y avait l'obéissance passive du soldat. Là où la vive foi chrétienne eût voulu jaillir, il y avait le prêtre catholique. Là où il y aurait eu la justice, il y avait le juge. Et l'avenir était là, sous les pieds des générations souffrantes, qui ne pouvaient sortir de terre et qui attendaient. Savait-on cela dans le peuple? S'en doutait-on? Le devinait-on? Non, loin de là. Aux yeux du plus grand nombre et des classes moyennes en particulier, ces quatre obstacles étaient quatre supports. Magistrature, armée, administration, clergé. C'étaient les quatre vertus de l'ordre, les quatre forces sociales, les quatre colonnes saintes de l'antique formation française. Attaquez cela, si vous l'osez. Je n'hésite pas à le dire. Dans l'état d'aveuglement des meilleurs esprits, avec la marche méthodique du progrès normal, avec nos assemblées, dont on ne me soupçonnera pas d'être le détracteur, mais qui, lorsqu'elles sont à la fois honnêtes et timides, ce qui arrive souvent, ne se laissent volontiers gouverner que par leur moyenne, c'est-à-dire par la médiocrité. Avec les commissions d'initiative, les lenteurs et les scrutins, si le 2 décembre n'était pas venu apporter sa démonstration foudroyante, si la Providence ne s'en était pas mêlée, la France restait condamnée indéfiniment à la magistrature inamovible, à la centralisation administrative, à l'armée permanente et au clergé fonctionnaire. Certes, la puissance de la tribune et la puissance de la presse combinée, ces deux grandes forces de la civilisation, ce n'est pas moi qui cherche à les contester et à les amoindrir. Mais voyez pourtant combien eût-il fallu d'efforts de tout genre, en tout sens et sous toutes les formes, par la tribune et par le journal, par le livre et par la parole, pour en venir à ébranler seulement l'universel préjugé favorable à ces quatre institutions fatales. Combien pour arriver à les renverser, pour faire luire l'évidence à tous les yeux, pour vaincre les résistances intéressées, passionnées ou inintelligentes, pour éclairer à fond l'opinion publique, les consciences, les pouvoirs officiels, pour faire pénétrer cette quadruple réforme d'abord dans les idées, puis dans les lois. Comptez les discours, les écrits, les articles de journaux, les projets de loi, les contre-projets, les amendements, les sous-amendements, les rapports, les contre-rapports, les faits, les incidents, les polémiques, les discussions, les affirmations, les démentis, les orages, les pas en avant, les pas en arrière, les jours, les semaines, les mois, les années, le quart de siècle, le demi-siècle. Chapitre 4. Je suppose sur les bancs d'une assemblée le plus intrépide des penseurs, un éclatant esprit, un de ces hommes qui, lorsqu'ils se dressent debout sur la tribune, la sentent sous eux trépied, y grandissent brusquement, y deviennent colosses, dépassent de toute la tête les apparences massives qui masquent les réalités, et voient distinctement l'avenir par-dessus la haute et sombre muraille du présent. Cet homme, cet orateur, ce voyant, veut avertir son pays. Ce prophète veut éclairer les hommes d'État. Il sait où sont les écueils. Il sait que la société croulera, précisément, par ces quatre faux points d'appui, la centralisation administrative, l'armée permanente, le juge inamovible, le prêtre salarié. Il le sait, il veut que tous le sachent. Il monte à la tribune, il dit « Je vous dénonce quatre grands périls publics. Votre ordre politique porte en lui-même ce qui le tuera. Il faut transformer de fond en comble l'administration, l'armée, le clergé et la magistrature. Supprimer ici, retrancher là, refaire tout, ou périr par ces quatre institutions que vous prenez pour des éléments de durée et qui sont des éléments de dissolution. » On murmure, il s'écrie, « Votre administration centralisée, savez-vous ce qu'elle peut devenir aux mains d'un pouvoir exécutif parjure ? Une immense trahison, exécutée à la fois sur toute la surface de la France, par tous les fonctionnaires sans exception. » Les murmures éclatent de nouveau et avec plus de violence. On crie « À l'ordre !» L'orateur continue. « Savez-vous ce que peut devenir, à un jour donné, votre armée permanente ? Un instrument de crime. L'obéissance passive, c'est la baïonnette éternellement posée sur le cœur de la loi. Oui, ici même, dans cette France qui est l'initiatrice du monde, dans cette terre de la tribune et de la presse, dans cette patrie de la pensée humaine, oui, telle heure peut sonner où le sabre régnera, où vous, législateurs inviolables, vous serez saisis au collet par des caporaux, où nos glorieux régiments se transformeront pour le profit d'un homme et la honte d'un peuple, en hordes dorées et en bandes prétoriennes, où l'épée de la France sera quelque chose qui frappe par derrière, comme le poignard d'un sbire, où le sang de la première ville du monde assassinée éclaboussera l'épaulette d'or de vos généraux. » La rumeur devient tumulte. On crie « À l'ordre !» de toutes parts. On interpelle l'orateur. « Vous venez d'insulter l'administration. Maintenant, vous outragez l'armée. » Le président rappelle l'orateur à l'ordre. L'orateur reprend. « Et s'il arrivait un jour qu'un homme, ayant dans sa main les 500 000 fonctionnaires qui constituent l'administration, et les 400 000 soldats qui composent l'armée. S'il arrivait que cet homme déchirât la Constitution, violât toutes les lois, enfreignît tous les serments, brisât tous les droits, commît tous les crimes, savez-vous ce que ferait votre magistrature inamovible, tutrice du droit, gardienne des lois? Savez-vous ce qu'elle ferait? Elle se tairait. Les clameurs empêchent l'orateur d'achever sa phrase. Le tumulte devient tempête. Cet homme ne respecte rien. Après l'administration et l'armée, il traîne dans la boue la magistrature. La censure! La censure! L'orateur est censuré avec inscription au procès-verbal. Le président lui déclare que s'il continue, l'assemblée sera consultée et la parole lui sera retirée. L'orateur poursuit. Et votre clergé salarié? Et vos évêques fonctionnaires? Le jour où un prétendant quelconque aura employé à tous ces attentats l'administration, la magistrature et l'armée, le jour où toutes ces institutions dégoutteront du sang versé par le traître et pour le traître, placé entre l'homme qui aura commis les crimes et le Dieu qui ordonne de jeter l'anathème aux criminels, savez-vous ce qu'ils feront, vos évêques? Ils se prosterneront, non devant le Dieu, mais devant l'homme. Se figure-t-on la furie des huées, la mêlée d'imprécations qui accueillerait de telles paroles? Se figure-t-on les cris, les apostrophes, les menaces, l'assemblée entière se levant en masse, la tribune escaladée et à peine protégée par les huissiers? L'orateur a successivement profané toutes les arches saintes. Il a fini par toucher au saint des saints, au clergé. Et puis, que suppose-t-il là? Quel amas d'hypothèses impossibles et infâmes! Entend-on d'ici gronder le baroche et tonner le Dupin? L'orateur serait rappelé à l'ordre, censuré, mis à l'amende, exclu de la chambre pour 3 jours, comme Pierre Leroux et Émile de Girardin. Qui sait même? Peut-être expulsé, comme Manuel. Et le lendemain, le bourgeois indigné dirait « c'est bien fait », et de toutes parts les journaux de l'ordre montreraient le poing au calomniateur, lettre majuscule. Et dans son propre parti, sur son propre banc à l'Assemblée, ses meilleurs amis l'abandonneraient et diraient « c'est sa faute, il a été trop loin, il a supposé des chimères et des absurdités ». Et après ce généreux et héroïque effort, il se trouverait que les 4 institutions attaquées seraient choses plus vénérables et plus impeccables que jamais, et que la question, au lieu d'avancer, aurait reculé.